Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, animée par l'équipe des Films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions, déjà diffusées sur cette antenne, sont disponibles sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog, culture-prohibée.blogspot.fr.
Allez ma belle, fais voir ton permis.
Et comment tu t'appelles?
Jackie.
C'est quoi ça?
Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée aux poupées maléfiques au cinéma. Eh oui, nous allons engager un débat comparatif entre deux sagas mythiques de ce sous-genre, à savoir Chucky et les poupettes Master. Nous reviendrons aussi sur le possible avenir par exemple de la franchise Annabelle. Si on a le temps, on parlera de quelques classiques, je pense aux Dolls de Stuart Gordon, aux Poupées du Diable, le film précurseur de Todd Browning. Et puis au cultissime dernier sketch de Trilogy of Terror, La Poupée de la Terreur de Dan Curtis. Enfin, tout ça, ça va nous faire un sommaire bien rempli. Et pour causer Poupée Maléfique, je suis accompagné de deux personnages non moins maléfiques, mais qui ne sont pas des poupées. Je veux bien sûr parler de Damien Demé. Damien Demé dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de culture souterraine et oubliée. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Également dans ce studio, celui que l'on surnomme le loup-garou Picard, je veux bien sûr parler de Thomas Roland qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglants écrits pour la revue Griffe et le site cultureaupoint.com et qui parfois nous fait des infidélités radiophoniques pour son émission à l'écoute du cinéma sur Radio Campus Amiens. Salut Thomas.
Salut GG. Salut Damien. Et bien évidemment, bonjour à toutes.
What are you fucking nuts?
Une série de films d'horreur a été récemment remise à l'honneur par un reboot. Hein, je veux bien sûr parler de la série Chucky, la poupée de sang. Chucky, donc, qui bon, pour l'instant compte 8 volets et se base sur une poupée maléfique, Chucky, possédée par l'esprit d'un psychopathe qui s'appelle Charles Lee Ray, n'est-ce pas, mon cher Damien?
Oui, tout à fait. 2019 a été très douillé pour les poupées maléfiques. On a eu la sortie du troisième Annabelle et on a eu la sortie du remake de Chucky, donc une poupée maléfique qui hante les écrans depuis la fin des années 80, plus précisément depuis 1988. Et donc le premier film a été réalisé par Tom Holland et depuis c'est le scénariste qui est derrière tout et Chucky depuis le début qui l'a mené jusqu'à son septième film, qui est Don Marini, qui de base était juste scénariste et au bout du quatrième film est devenu réalisateur. Et la particularité du remake, c'est qu'il n'a en fait pas vraiment de lien avec les précédents. Parce que certes, c'est un remake, mais même au niveau de l'équipe technique, Don Marini n'est plus présent. Alors Chucky, c'est sur 8 films. Les 3 films se nomment Child Play dans leur langue originale, c'est-à-dire jeu d'enfant. Et c'est une saga très riche qui a une particularité, c'est que Chucky fait partie de cette longue film de tueurs dans les slashers qu'on appelle les increvables, et que généralement les increvables ont tendance à, au fur et à mesure des séries, d'élargir leur mythologie, alors que Chucky a la particularité d'élargir son arbre généalogique. Et sur ces, c'est sur ces points qu'il devient particulièrement intéressant, parce que, oui, pour revenir sur le premier film, vu qu'on va devoir passer par là, le premier film Chucky débute sur une course-poursuite entre un policier et un bandit. Le bandit est blessé mortellement et décide de changer de corps, de lier à son âme à une poupée. Une poupée qui est vendue en série et qui s'appelle Brave Gars dans la version française et Good Boy dans la version originale. Et le problème, c'est que cet objet maléfique va se retrouver dans les mains d'un enfant qui va se retrouver avec une poupée Chucky possédée par un tueur, et que ce tueur va continuer à faire son œuvre. Et c'est très intéressant parce qu'on a un rapport à la poupée vraiment très intéressant, vu qu'on a tout un ensemble assez malaisant d'un enfant qui finalement aide un tueur pensant que c'est juste une poupée à commettre ses meurtres. Et j'aime beaucoup justement la façon dont la série va se réinventer au fur et à mesure. On commence toujours par cet enfant qui au final va être traumatisé au fil des épisodes. Et bon, oui, il continue à traumatiser l'enfant à travers divers épisodes. Il revient soit de manière constante, soit de manière parcellaire. Enfant que j'aime beaucoup parce que dans le premier film, il m'a bluffé. Je trouvais très très bon, et j'étais surpris qu'aussi jeune, on puisse s'en sortir aussi bien. Et donc, au fur et à mesure, Chucky va agrandir sa famille, d'abord d'une fiancée de manière assez ironique, qui était la femme que le tueur était en couple avec, qui va finalement retrouver dans ses objets une bague, pensant qu'elle lui est destinée, mais on découvrira au fur de l'histoire que c'était juste un des trophées, va essayer de sortir avec, de sauver Chucky, essayer de sortir avec. Chucky va expliquer que non, c'était juste un des trophées, ils vont s'engueuler, va y avoir une tuerie, finalement, elle va revenir sous forme de poupée, ils vont faire une tuerie à deux, ensuite, un film suivant, ils vont avoir un enfant, où il y a un rapport très intéressant par rapport à l'identité de l'enfant, avec Chucky qui veut un fils, donc il l'appelle Glenn, et sa fiancée qui veut à tout prix une fille, du coup, il l'appelle Glenda. Et on a cet enfant perdu entre ces deux os, mais on s'éloigne un peu du sujet des poupées maléfiques et notamment du destin que pourrait avoir Annabelle, parce que Chucky est un film qui est d'abord sorti au cinéma, qui a eu de nombreuses suites au cinéma, et son dernier film, l'un de ses derniers films, La Malédiction de Chucky, mais plus en le Cult de Chucky, a plus eu un avenir direct ou DVD. Et là, il débarque avec un remake que je trouve vraiment très intéressant, assez magique, qui arrive à se réinscrire dans son temps, vu que le film s'ouvre avec une pub où on nous vante une poupée ultra connectée qui peut tout connecter chez nous, qui est là pour nos enfants, qui peut allumer la télé. Avec la même application, on peut commander une voiture. Donc, on a déjà une idée de ce qui va se passer par la suite. Et à peine cette pub commerciale pour la poupée terminée, on se retrouve en Asie avec quelqu'un qui est en train de monter une poupée, qui se fait engueuler par son directeur, qui décide de le virer. Et ce gars décide de se venger en bousillant tout le logiciel de la poupée avant de se suicider. Et on se réinscrit dans un présent que j'aime beaucoup. On met en avant finalement les problèmes de la délocalisation d'un monde surconnecté, des dangers, voire des pirates informatiques, et la certaine pression entrepreneuriale qui crée cette horreur du présent. Et c'est ça qui est intéressant avec Chucky, c'est que malgré sa longue trentaine d'années avec ce dernier film, même s'il n'est pas phénoménal, il est vraiment très intéressant et vraiment très divertissant.
get that up.
I am shot.
Vous écoutez Culture Prohibée, spéciale poupée maléfique au cinéma.
Je voulais juste compléter. Glen or Glenda, c'est une référence à Ed Wood, hein, le fameux film sur le qui s'appelle Glen or Glenda, puisqu'on sait tous qu'Ed Wood aimait se travestir, hein, voilà. Et d'ailleurs, c'est vrai que le fils de Chucky de 2004 de Don Mancini, il est assez sympathique. Ouais, dans le genre gros délire bis qui tâche. Il est assez sympa. Je voulais juste, avant de laisser mon ami Thomas peut-être disserter sur cette série, je voulais juste dire qu'un petit truc rigolo, c'est que c'est soi-disant adapté d'une histoire vraie. Chucky, alors bien sûr, tout ça, le fameux cachet histoire vraie, ça aide à vendre du film, hein, voilà. Et en fait, c'est censé s'inspirer de l'histoire de Robert la poupée. Voilà, Robert, c'est moins sexy que Chucky, mais bon, voilà. Et Robert la poupée, on est en 1896. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est l'histoire du docteur Thomas Otto qui emménage avec sa famille à Key West, en Floride, qui est visiblement un sale type, hein, qui est très désagréable avec ses domestiques, qui aime bien coucher avec ses domestiques. Féminine, je précise, mais qui est aussi assez violent, assez dur avec ses domestiques. En 1906, sa femme surprend donc une de ses servantes haïtiennes en plein rituel de magie noire. Et cette servante va remettre une poupée donc, d'un mètre de haut à leur fils Robert. Voilà. Et après, bon, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Hein. Il y a une relation qui s'instaure entre le gamin et la poupée. Le gamin choisit de donner son propre prénom à la poupée. Hein. Il la considère comme son double. Et lui, il exige qu'on l'appelle Eugène, son deuxième prénom. Donc, il lègue son prénom à la poupée. Alors, bien sûr, l'histoire là, pour l'instant, c'est plus une histoire de gamin qui a une poupée qui lui donne son prénom. Bon, ça, à la limite. Ça peut arriver. Bon, il paraît que passer 25 ans, l'ami imaginaire, c'est mauvais signe. Hein. Si on lui laisse toujours une assiette à table, ça craint. Bon, là, visiblement, la mère surprend le fils en train de discuter avec la poupée. Alors là, on se dit que ça commence à être très craignos. La poupée qui est dotée de la voix grave d'un adulte, en fait, c'est le gamin qui fait la voix, voilà, lui-même. Il paraît aussi que, alors pourtant, au début du 20e, ils n'avaient pas encore vu l'exorciste, hein, mais il paraît que les meubles bougent, tout ça, que la poupée court dans la maison avec un petit rire un peu flippant comme ça, voilà. Je fais bien le rire flippant, je sais. Les serviteurs sont terrifiés, tout le monde est terrifié. Les parents décident d'enlever la poupée au gamin, en fait, et de mettre la poupée sous clé au grenier. Et puis, des années plus tard, donc ce garçon, Robert Eugène, donc Eugène, adulte et marié à Anne, retourne vivre dans la maison de ses parents à la mort de son père. Il retrouve Robert au grenier et l'histoire recommence avec la poupée. Il la traite toujours comme un être humain. Et il l'installe dans une de ses chambres, sur un fauteuil face à la fenêtre. Et puis, les enfants qui passent dans la rue disent que la poupée leur fait des grimaces, qu'elle s'adresse à eux, enfin voilà. Et il vit tout le temps avec la poupée, en fait, et il finit dans la solitude par vivre enfermé dans une pièce avec la poupée en 1970. À partir de 1970, et il meurt en 72 avec la poupée à côté de lui. Voilà. Et évidemment... En 1974, la famille Reuter, une autre famille, rachète cette maison. La petite fille retrouve la poupée au grenier. Et là, qu'est-ce qui se passe? boum badaboum, comme dirait notre ami Jean-Paul, rebelote. Et oui, bah de nouveau, la malédiction de la poupée qui repart, voilà, et la fillette gardera toujours la poupée, et en 94, elle va en faire don à un musée, le musée Far East Martello, en expliquant au musée que la poupée est hantée. Voilà. Donc, bon, bien sûr, c'est une belle histoire, hein, ça permet de broder plein de choses autour, mais visiblement, Mancini, voilà, et part de ça pour inventer son personnage, parce qu'il y a le côté vaudou aussi dans le premier film, hein, qui est présent. Et je sais que le vaudou, ça parle à Thomas, d'ailleurs. On pourra peut-être revenir après un peu plus en détail sur la qualité intrinsèque de chaque film de la série, mais mon petit Thomas, l'homme qui aime le vaudou, qu'en penses-tu de cette série Chucky ?
Bon, moi, j'en ai pas vu beaucoup, je crois que j'en ai vu que deux. Hein. J'ai vu le premier, puis La fiancée de Chucky, avec Meg Tilly, hein, je crois que c'est Meg Tilly qui joue la fameuse fiancée. Moi, je suis pas fan du tout de cette saga. Je vais pas en dire grand-chose, si ce n'est que moi, j'avais trouvé le premier film assez mauvais. Je n'ai aucun souvenir de La fiancée de Chucky, pour dire, hein, mais vraiment aucun. Hein. J'avais trouvé le film assez mauvais. Par contre, je m'en souviens bien que j'avais pas aimé du tout, que j'avais trouvé la réalisation poussive, les dialogues bêtes à mourir, plein de clichés. Non, j'aime pas du tout. Sinon, Robert, il y a un film, Robert the Doll, qui existe, qui est sorti il y a un an ou deux, voire peut-être trois. Bon, c'est pas un film inoubliable non plus, hein, d'ailleurs, c'est pour ça que je m'en souviens pas beaucoup non plus. Mais il existe un film sur Robert, et on peut trouver effectivement plein d'informations sur Robert dans la poupée, je crois, maintenant dans un musée en Floride.
Effectivement, au musée Far East Martello, tel que je l'ai dit il y a quelques instants. Mais c'est pas grave, tu ne m'écoutes pas, Thomas, tu ne m'écoutes pas, ce n'est pas sérieux. Non, moi j'avais envie de dire, je partage ton avis, Thomas, un peu sur la qualité du film. Alors, je suis pas un gros fan. Pourtant, j'avais parlé de Vampire, vous avez dit Vampire, il y a peu, de Tom Holland, j'avais bien aimé. Et là, le Chucky, moi, j'ai jamais accroché, en fait, à cette série. Il y a quelques idées rigolotes, parfois, des références. Je crois que c'est dans le troisième qu'il y a une résurrection qui rappelle celle de Dracula, Prince des Ténèbres, où il y a le sang. Ah, comme si, bon, en gros, comme si une poupée pouvait avoir du sang. Mais en tout cas, c'est grâce au sang mélangé à une poupée qu'on fait renaître Chucky, qui rappelle le principe un peu de la descendre dans Dracula, Prince des Ténèbres de Terence Fisher. Écoutez Culture Prohibée. Bon, la fiancée de Chucky, quand même, c'est assez rigolo. C'est quand même, pour moi, le meilleur de la série. Hein. Ronnie Yu a des velléités plastiques quand même bien plus élevées que les autres réalisateurs de la saga. C'est un film assez vulgaire, c'est vrai, assez bas du front, mais quelque part, c'est un côté punk qui est assez jouissif, je trouve. Voilà, et sinon, moi, je trouve que la série est quand même très, très moyenne. Et en particulier, je trouve que les films réalisés par Mancini ne sont pas bons. Quoi. C'est-à-dire que quand il récupère le personnage, je trouve qu'il en fait... Il fait des bons gros délires, c'est plein de références, mais il n'en fait pas grand-chose. Moi, je me demande ce que va donner, parce que là, il paraît qu'il veut faire une série télé. Parce qu'il n'est pas content du remake reboot, là, et qu'il veut faire une série télé. Et elle est en tournage, visiblement, elle est carrément en tournage. Où il redéfinit vraiment, enfin, il se réapproprie le personnage. Et bah, je me demande ce que ça peut donner. Parce que du coup, ça va être un des rares exemples de saga cinématographique qui continue, avec une série télé à côté, mais qui raconte pas la même chose avec le même personnage. C'est un peu étrange.
C'est assez particulier, vu que quand dernier film avant le remake, le culte de Chucky se termine, il y a une idée, la façon dont ils sont lancés, on sent qu'il va y avoir une suite, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'événements qui changent à la fin de ce film, notamment avec... beaucoup de personnages importants égrenés au cours de la série qui reviennent, qui ont un rôle, et la façon dont ça termine, ça nous dit va y avoir un autre film, et entre temps on a le remake qui tombe, notamment fait par les producteurs qui ont travaillé sur les remakes de ça, et c'est vrai qu'ils voulaient lancer une série et qu'elle est encore en débat, justement parce que en ayant fait le remake, il y a un problème entre ce que la série va donner et ce qu'ils veulent faire. Et en increvable qu'il y a une série, et personnellement je la trouve pas bonne, mais il y a moins de films aussi de base. Je pense notamment à la série des Scream qui ont eu 3-4 films et qui ensuite ont eu une série qui a continué et qui a dû s'achever. Je ne suis pas sûr de cette information. Et Chucky suit ce chemin, j'ai aucune idée ce que ça pourrait donner. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, et là je pense au remake, c'est que finalement Chucky, je voyais pas vraiment l'intérêt de faire un remake à notre époque. C'était une série de films sympas qui finalement se succédaient, et vu que c'était un film qui disait au final pas grand chose, faire un remake, ça m'a semblé un peu surprenant, plus pour jouer sur la nostalgie des gens aujourd'hui que pour vraiment faire quelque chose. Et le fait qu'ils aient réussi à apporter une idée en plus derrière, ça, je saurais pas l'expliquer, mais c'est assez particulier. C'est ce genre de film où on se dit, bah, faites un remake, mais vous pouvez rien faire avec, c'est juste pour le fun. Et finalement, ils rebootent la série avec ce... Enfin, ils rebootent une série de films avec ce remake, et il y a du potentiel derrière.
Ah, moi, je trouve que c'est un remake qui saisit un truc de l'époque. Je trouve pas que c'est un bon film, hein. Mais je trouve que c'est un remake qui saisit un truc de l'époque. J'ai envie de dire, c'est un reboot remake 5G. C'est-à-dire, on est complètement dans la thématique qui anime en ce moment la société, où on a un débat là actuellement en Europe, en France, sur est-ce que Huawei doit récupérer la 5G, immense marché, parce que la 5G, ça permet de tout contrôler, en gros, hein, quand on a de la 5G chez soi. Et les appareils 5G contrôlent tout chez soi, ils voient tout, ils entendent tout. Encore pire que ce qui existe maintenant. Voilà, on est totalement espionné. Et la poupée de Chucky dans ce remake, c'est un peu la poupée 5G, quoi. C'est-à-dire, elle fait tout, elle entend tout, elle voit tout, elle peut tout faire. Elle peut exaucer tous nos souhaits, mais évidemment, elle est maléfique, parce que c'est Chucky, quoi. Mais moi, je dois avouer, hein, Damien, alors je ne sais pas quel est ton point de vue, mais je suis assez étonné, quand même, du succès de cette série de films, que je trouve pas extraordinaire, y compris les premiers, parce que d'habitude, il y a un bon premier film, les autres sont un peu moins bien. Enfin, généralement, quand on arrive à une série qui s'étale sur 30 ans comme ça, on a ce genre de défaut, hein, ça c'est inévitable. À quand le prochain vendredi 13 d'ailleurs, hein, Thomas et moi on attend avec impatience, hein, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. Mais Je la trouve pas extraordinaire. D'ailleurs, pour moi, elle fait écho. Enfin, la poupée maléfique, en fin de compte, elle a été très bien illustrée. Alors, la poupée ou la marionnette, parce qu'on va parler après de Puppet Master. Puis, je pense aussi à Magic avec Attenborough ou des choses comme ça, où on est à la fois. Il y a le délire autour de la ventriloquie, tout ça. Enfin, bon, si on a le temps, peut-être qu'on débattra aussi là-dessus. Il y a le côté schizophrène aussi lié à la poupée, à la marionnette, pardon. Il y a le côté schizophrène. Moi, je pense aussi à une série récente qui a du succès. Je comprends pas non plus le succès. C'est la série des Annabelle, parce que je trouve ça assez faiblard en fin de compte. J'ai l'impression en fait que le succès de ces films, s'explique peut-être un peu aussi par l'aspect iconique de l'objet en lui-même. Parce que la poupée de Chucky, par contre, elle a une tronche, quoi. Voilà. Elle est bien pensée, elle a vraiment une tronche particulière. Et Annabelle, elle a aussi cette poupée, elle a quelque chose. Quand on la voit dans Conjuring, je crois que c'est dans le premier qu'on la voit pour la première fois, elle apparaît dans le musée, comment dire, des souvenirs, des enquêtes paranormales menées par le couple Warren. Elle marque tout de suite les esprits, mais bon, par contre, les films, moi, je trouve que... ne marque absolument pas les esprits. Vous écoutez Culture Prohibée.
John, réveille-toi.
Qu'est-ce qu'il y a ?
J'ai entendu un cri chez les voisins.
Ouais, si, je vais voir.
John ? Est-ce que tout va bien ?
Oh mon Dieu, tu es couvert de sang !
Rentre à la maison, c'est pas mon sang. Faut appeler une ambulance immédiatement. Mais... vite !
J'aime bien tes poupées.
Ah !
Le premier Annabelle, effectivement, est très oubliable. Hein. C'est un film prosélyte, comme Hollywood en produit beaucoup depuis quelques années, hein, en se calquant sur l'exorciste. Hein, des films plus ou moins d'exorcisme, de possession. Et on rentre dans le même truc avec un démon qui apparaît. Enfin, c'est très ennuyeux et c'est assez déplaisant, assez réactionnaire. Par contre, moi, j'aime bien le deuxième. Je trouve que le deuxième, il prend une autre direction et ça aurait pu être autre chose, en fait. Je veux dire, que ce soit Annabelle ou pas, en fait, ça n'a pas de rapport parce que ça aurait pu être un autre film qui n'est relié à aucune franchise, pas du tout. Sauf à la fin où ils essayent de rattacher les wagons de façon très artificielle. Et moi, ce que j'aime bien dans ce film-là, c'est que c'est quelque chose qui devient un peu une mode, c'est qu'il ne spectacularise pas les moments de suspense. C'est-à-dire que, je veux dire, il n'y a pas de musique, il y a moins de jump scares que dans les autres films, comme il y en a eu beaucoup à une époque. C'est beaucoup plus sur la tension, sur les silences, beaucoup plus là-dessus. Après, vers la fin, le film, il commence un peu à s'empâter, à prendre les atours d'un film d'horreur un peu plus commun. Mais je trouve qu'il y a des bonnes scènes de fou dans ce film. Il y a quelques bonnes idées avec la poupée, avec cette silhouette sous un drap qui marche au fur et à mesure de ses pas. Le drap découvre au fur et à mesure la silhouette. Il y a aussi un passage où la petite fille, hein, je crois, hein, qui est dans le lit. Puis il y a la porte ouverte où il fait complètement noir, où elle sent une présence. Je trouve que le film est bien foutu de ce côté-là. Après, le 3, j'ai vu le 3 que je ne déteste pas, mais par contre, c'est un film pour enfants, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas un mort, il n'y a pas une scène gore, il n'y a rien. Mais je trouve que le film n'est pas trop mal fichu. Le réalisateur installe une ambiance, installe quelque chose, mais je trouve qu'il n'en fait pas grand-chose. C'est un film d'horreur familial, en fait. Voilà, c'est ça. Pourtant, il y avait de quoi faire. Il y avait un potentiel pour faire un vrai film d'horreur, genre maison hantée, vraiment flippant. Mais finalement, il n'en fait pas grand-chose et ça devient une sorte de Disney un peu flippant. Et pas plus que ça. Il n'y a pas un mort, il n'y a pas une goutte de sang. Alors qu'il y a des passages qui sont pas mal, mais ça ne va jamais au-delà. On dirait que c'est un film qui n'ose pas.
Pour revenir sur Annabelle 2, je voulais juste te dire que c'était un film de David F. Sandberg, Annabelle 2. C'est un peu le type qui donne l'impression à chaque fois de ne pas aller au bout de son talent. C'est lui qui avait fait un court-métrage qui s'appelle Lights Out, dont on avait parlé il y a des années de ça dans l'émission, il y a fort longtemps, hein, à l'époque, l'année, je pense, en 2013, hein, je pense, quand le court-métrage est sorti, on en a parlé tout de suite dans l'émission. Je crois même que c'est Thomas qui avait sélectionné ce court-métrage. Et effectivement, alors après, il l'a remaké en long-métrage, voilà, ça a donné Dans le noir, qui est pas extraordinaire. Il a fait cette Annabelle 2 qui est pas extraordinaire non plus, malgré des qualités, ça c'est sûr. Et puis là récemment, il a fait Shazam, qui est complètement inepte, hein, mais ça c'est la dure vie du réalisateur américain. Je dis, pour survivre, il faut faire des films de super-héros, mais c'est un peu un réalisateur un peu décevant, David F. Sandberg. Alors, je parle pas du troisième, là, je parle du deuxième. Hein,
son court-métrage, c'est une bonne idée, qui a d'ailleurs été repris. Par de nombreux autres jeunes réalisateurs qui ont pris un peu la même idée, qui l'ont décliné avec un appareil photo, avec autre chose, etc. Mais c'est le même truc, la même chute, exactement la même écriture. Et son remake en long métrage, c'était effectivement pas terrible. J'avais été surpris par cette Annabelle 2, que je trouvais bien supérieure au premier et plus intéressant que le 3. Mais effectivement, c'est pas un réalisateur. Je pense que c'est un réalisateur qui est. Je pense que c'est plus un technicien, un tâcheron qu'autre chose.
Au tâcheron, comme tu es dur. La série Annabelle, parce que quand on a un peu préparé cette émission, Damien, toi, tu voulais faire un peu des prospectives sur l'avenir de cette franchise Annabelle. Alors bon, je sais pas, tu prospectives quoi, mon cher Damien ?
Quand on compare avec Chucky et ensuite qu'on va faire avec Puppet Master, Annabelle, finalement, l'avenir des poupée maléfique au cinéma, c'est toujours un peu pareil. C'est qu'au départ, il y a un petit départ en trombe et que finalement, on finit en direct ou DVD, suivi par des fans. Et ça marche avec Puppet Master et Chucky parce qu'ils ont leur univers à eux, sauf que Annabelle, elle partage son univers avec Conjuring et tous les films qui sont autour, hein, le Conjuringverse, qui ressemble un peu à Warner qui tente de prendre sa revanche sur son DC Extended Universe. Et moi, j'y vois un avenir assez sombre, parce que le premier film débute justement sur la présentation... En fait, le premier film débute exactement comme Conjuring, c'est-à-dire on a la présentation de la poupée, et on nous l'introduit, on introduit la menace, on tente des trucs. Je trouve qu'il y a des idées, mais qu'à chaque fois, dans l'ensemble, ça marche pas. C'est plus un patchwork d'idées de différents films qu'on retrouve dans un même film sans plus. Le deuxième, j'avais de l'espoir parce que j'aimais beaucoup David F. Sandberg, notamment parce que je l'avais suivi à travers YouTube et j'avais adoré tous ses courts-métrages. Et quand j'avais vu Warner l'avait pris, que c'était James Wan qui allait parrainer, j'étais en mode oui, un renouveau de l'horreur. Et au final, je suis déçu par tout ce qu'il fait. Et je confirme ce que disait Thomas en disant que c'était plus un technicien, parce qu'il continue à alimenter sa chaîne YouTube, mais il l'alimente en parlant des différents techniques et trucages qu'il a utilisés dans ses films. Et le dernier film est fait par Gary Doberman, qui est en fait le scénariste des trois autres films. Et je pense que ça concentre le problème du Conjuringverse, c'est-à-dire qu'on va faire des films avec trois personnages principaux, que ces trois personnages, enfin deux, trois personnages principaux qui vont être au cœur du film pendant tout le film, que la menace va nous faire miroiter au départ quelques morts et on va dire attention, c'est la grande menace, et qu'au final, les trois personnages qui sont dès le début, qui restent durant toute l'histoire sans ajout et qui survivent, c'est un peu décevant. Et c'est encore pire avec Annabelle 3, justement, parce que Annabelle est introduite à travers le couple Warren dès le début, qui frôle la mort rien qu'en tentant de la rapporter chez elle. On nous explique que c'est un esprit vraiment dangereux parce qu'il attire et il amplifie tous les autres. Et finalement, Annabelle se retrouve libérée par deux ados et une enfant qui vont réussir à déjouer chacun de ses pièges de ce grand esprit et de s'en sortir, ce qui est vraiment très décevant. Et tout à l'heure, tu me posais la question, Jérôme, par rapport au succès qu'avait Chucky et Annabelle. Annabelle, je pense que son succès, c'est beaucoup lié au Conjuring Universe et que du coup, les gens continuent à suivre en partie grâce à ça. Chucky, je pense que sa force, c'est son langage, c'est la puissance d'être vulgaire dans un jouet pour enfants. C'est finalement cette innocence qui est confrontée à toute cette violence, d'adulte à la bouche. C'est finalement... C'est comme si le couple Warren affrontait la fille de l'exorcisme et dans une poupée, ça aurait été très drôle. Et Annabelle est silencieuse et c'est un point qu'il y a beaucoup avec les autres marionnettes, c'est leur silence, alors que Chucky, même Chucky par rapport à tous les increvables, celui dont il se rapproche le plus, c'est Freddy qui parle, et Chucky a à peu près le même langage en étant beaucoup plus brut, et c'est ça la force de ce personnage. Après, pour revenir sur le destin d'Annabelle, normalement, s'il continue, si le Conjuringverse ne meurt pas, ça continuera d'être des directs tout DVD. Et avec Annabelle, ça va être compliqué parce que le premier film, c'est un préquel. Le deuxième film, c'est le préquel du préquel. Le troisième film se passe enfin dans le présent. On ne sait pas trop, par contre, où ça se situe dans le Conjuring. Et c'est assez décevant. Donc, je dirais qu'il y a de grandes chances que ça finisse en direct tout DVD. Mais après, c'est pas forcément une fatalité, vu que ça peut constituer une vraie fanbase, comme pour les Puppet Master.
Les poupées d'André Toulon sont de retour. Elles peuvent vous faire sourire. Elles peuvent aussi vous faire mourir. Le découpeur, tête d'épingle. Jester, la sorcière. Et la vrille.
Got bouncing beans, mashed money. In this culture, agri-clash. Cows bought the grass like it's covered in honey. Snuggles the bunny, sunny at last. Farmer got a 45, that's a rabbit on the money pad. Fresh greens in my tummy, yummy, yummy cash. What, you don't think that's funny? Do the math. 45 revolutions per minute. And I'm still playing Russian roulette with the spinach. Aftermath, my seeds are thought of the limit. Plus, there's no bulletproof for me spitting an image. Guess what, Jack Rabbit's back, so take that. On this 24-carat track, I'm a 24-carat Mac. Bring them salad back.
You wanna see the sunshine, giving you a thousand rainy days. You wanna hear some punchlines, now you're living in a tragedy.
Well, it's all like a sack. The earth is a treasure box, y'all be not able to pay it back. 50 Cent might have all the money, but you cannot show his face. Whenever he leaves his house behind, he's in a zoo in a Cadillac cage. There's the other side of what you think you own, you better check it out. Cause them demons will stay hungry, plus their voices might turn loud.
What the hell am I doing here? I thought I was checking into a hotel. No, I'm going to hell. Took a look into my heart and decided to situate my apartment right there inside the darkest part. I'm gonna get rich, a jet set snitch, putting on the sea funk at the Ritz. Yeah, me, a frog prince, charming your pants off. You know it's a crime against nature, but you just can't stop. And I won't stop till I cop a helicopter for a half a mil. Got my sights locked on the bills, house in the hills, with the swimming pool filled with the drool of all the fools that make fun of me.
You wanna see the sunshine, giving you a thousand rainy days. You wanna hear some punchlines, now you're living in a tragedy.
Now you got permission to freak.
One.
Vous écoutez Culture Prohibée, spéciale poupée maléfique au cinéma.
Les Poupettes Master, puisque tu en parles, Damien. Et oui, Poupettes Master, c'est une série qui a été un peu... Là, on est plus dans le bis. On est dans des budgets, d'ailleurs, de série Z hein, pour certains épisodes. On est chez Charles Band, hein, voilà, avec tout ce que ça implique. Alors, Charles Band, qui est aussi producteur en 87, d'ailleurs, du Dolls de Stuart Gordon. Hein, excellent film avec des poupées maléfiques hein, qui attaquent des je crois que ce sont des touristes égarés, enfin, des voyageurs égarés qui vont dans une maison où il y a un couple de petits vieux... pas si sympathiques qu'ils en ont l'air à la première approche, voilà. Et avec, bien sûr, parce que Stuart Gordon à la caméra, même avec $2, il vous fait un film qui déchire, Stuart Gordon, avec tout cet aspect, justement, iconoclaste propre au cinéma de Stuart Gordon, bien pervers aussi, où il y a toujours Eros et Thanatos qui se promènent la main dans la main. Et puis, il y a donc cette série qui est un peu produite dans la foulée, hein, pour capitaliser sur ces poupées maléfiques, puisque le premier Puppet Master vient 2 ans après Dolls. C'est la série des Puppet Master. Puppet Master, il y a 12 films, hein, dont un spin-off que j'ai pas vu, hein, honte à moi, mais Puppet Master versus Demonic Toys de 2004, de Ted Nicolaou, hein, voilà, l'un des habitués de l'écurie Full Moon Pictures, voilà, de Charles Band, ex Empire Pictures d'ailleurs, il y a au tout début, et Ted Nicolaou qui est pas sans talent d'ailleurs, hein, qui est pas un réalisateur inintéressant. Alors je l'ai pas vu, je regrette, parce qu'il y a quand même Corey Feldman, hein, qui a enchaîné les séries Z depuis les Goonies, hein, voilà. Et puis il y a la belle Vanessa Angel, hein, qui a émoustillé toute notre adolescence dans 3615 Code Lisa, qui était l'adaptation d'une créature de rêve de John Hughes en série télé. Et récemment, la série a été remise au goût du jour par son 12e épisode. Alors on pourra peut-être essayer de détailler, au moins parler des meilleurs films de la série, mais parce qu'il y a un épisode qui s'appelle Puppet Master The Littlest Reich, je peux le dire, oh oui, Puppet Master The Littlest Reich, de Sonny Laguna et Tommy Wicklund. Mais enfin, on s'en fout un peu en fait de qui réalise le film, parce que tout ce qu'on sait, c'est que c'est Craig S. Zahler qui est au scénario, hein, le mec qui nous a traîné sur le bitume, le mec qui nous a fait Bon Tomahawk, quand même, excusez du peu la claque à Gérard May quand on l'avait découvert, ce film monstrueux, quoi. Et monstrueux, tout simplement. Il remet au goût du jour la saga. Alors, c'est aussi le premier film produit par la mythique revue Fangoria. Fanzine, prosine, revue désormais, voilà, Fangoria. Et Et c'est un film dans lequel on peut voir, par exemple, Udo Kier, Barbara Crampton. Et oui, Barbara Crampton, qui justement nous émoustillait dans les premiers films de Stuart Gordon, puisqu'elle est, comment dire, la victime de l'une des scènes de Cunnilingus les plus singulières de l'histoire du cinéma, puisque c'est un personnage décapité qui tient sa propre tête et fait un Cunnilingus à la belle Barbara du temps de sa jeunesse. Elle n'a rien perdu d'ailleurs de sa beauté malgré les années qui se sont écoulées. Et là, qu'est-ce qui se passe dans Puppet Master The Little Streich ? Eh bien, on a un dessinateur de comics pas très connu, hein, voilà, en indé, qui bosse dans une boutique de comics et qui vient de divorcer. Et qui tombe sur une copine d'enfance, quoi. Et puis ils se mettent à. Bon, ça va très vite. Hein. Dans le film se perd pas en conjecture. Hein. Ils couchent très vite ensemble. Ils font couple assez rapidement. Et lui, il a une vieille poupée, qui est bien sûr une des poupées alors, du docteur André Toulon, on pourra en dire plus. André Toulon qui détenait une sorte de formule magique, de potion qui permettait d'animer des poupées un peu particulières avec des pouvoirs spéciaux.
Des marionnettes.
Des marionnettes, oui, des marionnettes, parce qu'André Toulon dit marionnette et Thomas, tiens, à être fidèle à André Toulon, bien que Craig Zahler n'est pas très fidèle à la série originelle, parce que André Toulon fuyait les nazis, il avait peur qu'ils lui volent son secret dans la série originelle, et puis il venge aussi le décès de sa bien-aimée, hein, tandis que là, il est nazi, hein, dans cet épisode-là, voilà, et tout le monde se retrouve dans une sorte de grande vente aux enchères aux États-Unis où tout le monde vend ses poupées un peu particulières. C'est poupettes master, voilà.
Marionnettes.
C'est marionnettes, hein, donc voilà. Et bien sûr, ça va partir en sucette, hein, puisque ça va défourailler, ça va gicler, ça va être violent, voilà. Ça rigole pas, c'est Craig Zahler, ça va saigner, et ça saigne pas mal d'ailleurs. Superbe musique de Fabio Frizzi. Alors le film a eu le grand prix à Gérard May, alors on n'y était pas cette année-là, donc je suis un peu perplexe quand même sur le fait d'un grand prix pour cette petite série B sympathique, mais pas franchement non plus extrêmement bien mise en scène. Mais en tout cas, un film assez jouissif, faut le dire, et qui s'inscrit en fin de compte, qui rend bien honneur à cette saga, même si moi je regrette dans ce film l'absence de stop motion, qui pour moi fait tout le charme un peu de la série Puppet Master, ces animations en stop motion avec ce côté très poétique de la stop motion que j'aime beaucoup. Écoutez Culture Prohibée.
J'étais surpris moi aussi parce que bon, c'est une trahison de la série originelle en faisant d'André Toulon un nazi. Mais le film, je trouve que tu dis que ça rigole pas, mais si, quand même, le film est drôle. Le film est drôle. Il y a quand même des passages où on rigole bien. Ben c'est vrai que le film est un peu faiblard, je trouve que parfois les acteurs sont pas toujours bons, il y a des scènes qui fonctionnent pas vraiment, mais il y a quand même Craig Zahler, c'est quand même un mec qui est vraiment pas complaisant avec ses personnages. Alors avec lui, tout le monde y passe, hein. Les femmes enceintes, les gamins, les noirs, les homos, les juifs, alors en même temps c'est des nazis, les poupées, enfin les marionnettes ici, là ce sont effectivement des nazis, d'où le titre Le plus petit Reich. Donc lui, tout le monde y passe. Alors dans une Amérique où la production cinématographique a tendance à vouloir épargner les enfants, etc. Là, lui, il les épargne pas. Hein, puis ça charcute. Hein. Et, alors, les tripes à l'air, décapitation. Il y a des passages qui sont quand même assez drôles, assez trivial quand même. Il y a des passages assez triviaux quand même. Mais je trouve que c'est quand même une bonne surprise. Et effectivement, ça tranche quand même, si j'ose dire, que les autres films de la saga, qui avaient quand même un peu plus de tendresse, qui avaient aussi de l'humour, beaucoup moins de gore quand même, hein, c'était l'horreur quand même gentillette, mais ce qui était quand même bien, c'était, comme tu dis aussi, le stop motion, mais aussi le fait que les poupées avaient quelque chose d'attachant, ces poupées qui étaient vraiment hors du commun, comme je pense à ce personnage qui a une toute petite tête et puis des mains énormes, et qui balance des pains dans la gueule aux gens. Ça, c'est quand même à mourir de rire. Et aussi, cette façon qu'il a de... C'est toute façon qu'il avait de personnifier ses personnages, notamment dans le premier épisode, dans le premier film. Il y a l'un des personnages les plus iconiques qu'on ne voit pas parce qu'il est en caméra subjective. À un moment, se cogne quelque part et puis on entend un bruit d'oiseau comme quoi il est étourdi. C'est très drôle. Moi, c'est une série que j'apprécie plus, beaucoup plus que Chucky, que je trouve... beaucoup plus qui se prend pas au sérieux. Bon, je les ai pas tous vus, hein, j'en ai vu que 6 sur 12, c'est quand même une bonne moyenne. Mais je trouve que c'est une série qui est quand même bien sympathique. On peut aussi voir un petit fond politique, je veux dire, en voulant récupérer la formule d'André Toulon quelque part. Les marionnettes, c'est un peu le peuple qu'on veut manipuler aussi.
Je voulais rappeler aussi, je sais que Damien aime beaucoup le premier film. C'est David Schmoller qui lance la saga. Et David Schmoller, c'est un sacrément bon réalisateur qui a peut-être jamais eu les moyens de faire les grands films qu'il aurait pu faire. C'est quand même le réalisateur derrière Fou à tuer, Crawl Space avec Klaus Kinski, qui est un film vraiment très réussi. C'est un esthète en plus, Schmoller. Et il y a, je pense aussi à Tourist Trap avec Chuck Connors, qui est vraiment excellent. Enfin, en gros, on l'aime beaucoup, David Schmoller et son Puppet Master. On l'aime beaucoup.
Oui, j'aime beaucoup son Puppet Master. En même temps, il me touche à une époque de ma vie où j'aimais bien me faire les longues sagas très proches des slashers. Et donc, son premier film, j'ai trouvé très intéressant. Enfin, le premier Puppet Master est très intéressant, assez original de la façon, je trouvais, dont il mettait en avant l'histoire. C'est-à-dire que dès le départ, on nous dit qu'il y a des marionnettes animées et finalement, on ne les voit pas ressurgir avant un bon moment de l'intrigue. On se retrouve au milieu d'experts de surnaturel, tous réunis pour venir voir leur ami qui est mort. Ils se demandent pourquoi il s'est suicidé. Et il y a une particularité que Puppet Master ont par rapport à tous les films que l'on a cités, c'est que les marionnettes en elles-mêmes, elles ne sont pas vraiment maléfiques. Elles sont, dans les premiers films en tout cas, elles sont toujours utilisées par des gens pour atteindre un certain but, généralement l'immortalité, et finalement elles obéissent toujours à ces personnes. Et dans la première trilogie, on a toujours plus ou moins dans les premiers films, on a toujours la même fin, c'est-à-dire que finalement les poupées vont se rebeller contre les personnes qui les obligent à tuer, vont la tuer et vont regagner leur indépendance ainsi. Et c'est assez intéressant en fait, car les Puppet Masters sont connus pour être des slashers, et en fait leur héros en eux-mêmes au début n'était pas machiavélique. J'apprécie beaucoup la stop motion qui est utilisée, et dès le premier épisode c'est présent, on retrouve au fur et à mesure André Toulon dans le troisième film. On a un peu son origin story, on a vraiment un préquel sur qui il était, pourquoi il a fait les différentes actions, et c'était ça remettait à nouveau les poupées en héros, vu que finalement on fait pas plus héroïque dans le système américain que les soldats, enfin que les hommes qui vont combattre les nazis, et c'est exactement ce que faisaient les poupées.
D'ailleurs, c'est le troisième, et c'est David de Coteau. David de Coteau, c'est le réalisateur de Creepozoid, c'est un réalisateur hyper Z. Et il est bien, quoi, le 3, je trouve. C'est certainement le meilleur film de Coteau. J'en ai vu pas mal, mais j'ai pas vu tout ce qu'il a fait parce qu'il est très productif. Et je voulais juste dire à Thomas qu'en fait, dès 91, dès le deuxième, hein, qui est signé Dave Allen. Alors Dave Allen, c'est superbe, responsable des effets spéciaux. C'est lui qui anime les poupées, en fait. Hein, et Dave Allen, là, il réalise. Et il y a déjà une scène d'un gamin qui se fait cramer par une marionnette qui s'appelle Torche. et d'un gamin qui se fait cramer. Donc déjà, dans le 2, ça rigole pas déjà, comme dans le dernier, quoi, The Little Reich, le tout petit Reich, voilà, le plus petit Reich, ça ne rigole pas, et je suis assez d'accord, enfin même le quatrième assez sympathique, enfin c'est une série qui se tient bien parce qu'on passe toujours un bon moment, en plus pas prise de tête, ça dure entre 1h15 et 1h30 l'épisode, c'est très 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 efficace, et même si c'est fauché, il y a tellement de poésie là-dedans, de magie, de, voilà, même si on use la formule jusqu'au bout, on s'éclate bien quand même en regardant des Puppet Master. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée est une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit la Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. L'émission animée avec Damien Demey, dit la Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit le Loup-Garou Picard, and the Last, but not the least. Je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine.